physique par le père Philippe. Saint-Joseph, le 15 janvier 85.
Tard de la neige. Le TGV du retard, il a toujours du retard maintenant. Un quart d'heure de retard chaque fois. Et puis la route, c'est difficile alors. Vous voyez le cours avancé. On va faire un cours bref. Hein. Une lectio brevis, comme on dit. Pour préciser le rapport entre le fondement de la relation et son exercice, ne faut-il pas atteindre la saisie de l'être en acte et de l'être en puissance, de même pour préciser l'ad Elohim? Non, pas nécessaire. Parce que normalement, nous n'avons pas encore vu la question de l'acte et de la puissance, et la question de la relation comme telle doit se voir en elle-même. Qu'est-ce que c'est que la relation? Nous nous posons la question, qu'est-ce que c'est que la relation? Alors que la relation soit un type d'être tout à fait distinct de ce que représente la substance, c'est bien évident. Alors, on va revenir à cette question-là, qui est une question très difficile, très délicate, parce que toujours, dès qu'il s'agit de la relation, c'est toujours très très difficile. Étant donné que ça nous échappe dans notre manière de saisir ce qu'est la relation, le toti eneinan de la relation est tellement subtil. Alors c'est justement ça qui spécifie la relation. L'exercice de la relation, nous le voyons bien, pensez toujours à l'amitié, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile pour nous. C'est là où la relation est la plus forte. Mais faisons attention aussi de ne pas tomber dans le point de vue psychologique. C'est toujours le très grand danger dans l'amitié. C'est que la plupart du temps, on vit l'amitié au niveau psychologique. Alors, quand on vit l'amitié au niveau psychologique, on ne voit pas du tout ce que c'est philosophiquement. On vit du conditionnement de l'amitié. C'est pour ça que c'est bien de prendre cet exemple, mais d'autre part, c'est gênant. Alors, il faut prendre toujours deux exemples extrêmes. L'exemple le plus simple de la relation, c'est l'égalité. Vous pesez le même poids que votre voisin. Ça vous avance à beaucoup. C'est une égalité où vous êtes semblable avec lui quant à votre goût, votre manière d'apprécier les choses, il y a une similitude. Vous voyez, ces petites relations très simples de similitude et d'égalité sont des relations où il n'y a pas grand danger de tomber dans le psychologisme. Posez le même poids que votre voisin, faites ça au point de vue psychologique, hein. Je sais pas si c'est... Oui, on déraille de la même façon, au bon tournant, tu vois. Alors, si vous voulez, ça, c'est le psychologisme, ça. Mais ça ne dit pas très fort ce que c'est que la relation, tandis que dans la relation d'amitié, là, on saisit bien toute la profondeur de la relation. La relation du disciple et du maître. On saisit toute la profondeur de la relation, là aussi. Donc, c'est toujours important d'avoir l'expérience de la relation pour voir ce qu'est l'exercice de la relation, puis en même temps, le caractère spécifique. Alors, c'est ce que je vous disais la fois dernière. Si vous mettez le caractère spécifique uniquement du côté du fondement, vous tendez à faire de l'exercice un exercice pur, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas la même chose d'exercer une similitude ou une égalité et d'exercer une amitié. Ou d'exercer la relation de dépendance de disciple et de maître. C'est autre chose. Alors, la tentation consisterait à dire seul le fondement spécifique. À ce moment-là, on ne saisirait plus le caractère propre de la relation. C'est très facile, il n'y a plus de problème. Le fondement seul spécifie, puis la relation vient s'ajouter du côté exercice uniquement. Ce qui est délicat, c'est de voir que le fondement est sûrement nécessaire pour préciser le point de vue de la spécification. Je ne peux pas spécifier une relation sans regarder son fondement. Mais le fondement doit être pris en tant qu'il est ordonné à la relation, et non pas uniquement en tant qu'il est qualité et quantité. Si je le prends uniquement en tant que quantité et qualité, j'ai une qualité, j'ai une quantité, mais je n'ai pas au sens strict le fondement. Le fondement, c'est lorsque justement il y a un ordre vers autre chose. Et là, c'est ce que, au fond, la scolastique a développé en parlant d'une relation transcendantale. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est difficile à préciser, c'est-à-dire une forme qui a sa détermination et qui en même temps a un ordre vers quelque chose. Alors, il vaut mieux, plutôt que relation transcendantale, le terme relation transcendantale, c'est donc scope. Alors, c'est pour ça que les puristes ne veulent pas cela. Alors, je crois qu'il vaut mieux, du reste, c'est plus vrai, c'est-à-dire qu'il y a un ordre vers quelque chose. Alors, regardons la relation d'amitié, puis essayons de saisir. Dans la relation d'amitié, quel est le fondement? Et comment le fondement spécifie fondamentalement et spécifie d'une manière ultime par l'exercice et dans l'exercice? Autrement dit, la coupe que nous faisons en disant deux termes corrélatifs. On est obligé de dire toujours deux termes corrélatifs. A, A. De termes corrélatifs. Parce que pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait deux sujets. Ou bien des doubles. Vous pouvez vous faire par vous-même votre propre relation, votre identité. La perte de votre identité. Quand vous parlez de votre identité, vous faites par rapport à vous-même une relation. C'est une relation de raison, ce n'est pas une relation réelle au sens absolu. Et vous vous dédoublez. Forcément. Parce que lorsque vous vivez, vous ne pensez pas à votre identité. Vous tâtez le pouls pour savoir si votre identité est bonne. Vous tâtez le pouls pour savoir si votre santé est bonne. Normalement, quand on vit bien, on ne se pose pas la question. On commence à se poser la question quand on commence à faiblir. Alors à ce moment-là, on se pose la question de savoir si ça va bien, si ça va mal, qu'être bien, ainsi de suite. Alors, les deux termes. Le fondement. Le sujet. Faisant l'application, ça, je crois que c'est nécessaire. Je crois qu'on ne peut pas éviter ça quand il s'agit d'analyser ce qu'est la relation. TST. Le TST du de la relation. Vous voyez, quand vous posez le TST de la qualité, le TST de la substance, vous ne regardez que la substance. Quand vous regardez le TST de la relation, vous êtes obligé de loucher. Vous ne regardez pas que les termes relatifs. Vous regardez l'enracinement des termes relatifs. Pour tous les accidents, le sujet est nécessaire. Seule la substance n'a pas de sujet, puisqu'elle est première dans l'ordre de l'être. Elle est à elle-même son propre sujet, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle a son autonomie, c'est le propre d'être autonome. Quand on est autonome, on a à soi-même son propre sujet. Donc il n'y a pas de sujet relatif à personne d'autre. On est uniquement soi-même, c'est le propre de la substance. Tous les accidents, nous le verrons, sont relatifs à un sujet. Ça, les prédicaments le disent, donc je peux le dire, c'est pas du tout. C'est tout simplement, tous les autres accidents sont relatifs. Ce qui est propre à la relation, c'est que la relation est relative au sujet par l'intermédiaire d'un autre, par l'intermédiaire du fondement. Le fondement joue donc le rôle de médiation par rapport au terme corrélatif et le sujet. Ce qui fait comprendre que la relation est quelque chose de tellement fragile que la relation ne peut pas affecter directement le sujet. Il affecte le sujet par l'intermédiaire d'autre chose. Et c'est ce qui fait aussi la très grosse difficulté de saisir ce qu'elle est. Parce que son caractère ultime et particulier, c'est l'exercice. C'est l'exercice des deux termes, des deux termes corrélatifs. On ne peut pas exercer la relation si on est seul. Tandis que je subsiste dans ma solitude. Le troisième percée, la troisième catoto. Je subsiste dans ma solitude. Vous ne pouvez jamais subsister dans votre solitude relative. C'est absolument impossible. Dire je subsiste dans ma solitude relative. Impossible. Dès que vous êtes relatif à un autre. C'est l'autre qui prend une importance capitale. C'est merveilleux, vous voyez, comme c'est charitable. C'est tout de suite l'autre. Tandis qu'au contraire, la substance... l'égocentrisme métaphysique de la substance. Tandis qu'au contraire, la relation, c'est l'éclatement de l'individu vers l'autre. Il y a un éclatement dans la relation. C'est ça qui est si difficile. Il y a un certain éclatement de l'être. C'est pour ça que quand on définit l'être uniquement par le point de vue un tissu de relation, on y voit un éclatement. Et ça se comprend très bien suite à l'idéalisme. L'idéalisme a tellement poussé sur l'ipsolipsisme, comme on dit, l'ipsolipsisme, a tellement insisté là-dessus qu'après il n'y a plus que l'éclatement pour en sortir. Alors on comprend très bien comment on en sort par l'éclatement de l'être. Et il y a quelque chose comme ça dans la relation. Il y a un certain éclatement, puisque c'est tourné vers, tout entier tourné vers l'autre, dans l'exercice. Et parce que c'est tout entier tourné vers l'autre, vous comprenez que la relation, l'enracinement dans le sujet se fait par le fondement. Mais le fondement permet l'enracinement dans le sujet et le fondement permet le regard vers l'autre. Et donc, dans le fondement, il y a deux aspects. Peut-être autrement. Le fondement permet l'enracinement et le fondement permet le regard vers l'autre. Parce que le regard vers l'autre dans la relation... il est différent. J'ai différents types de relations avec mon voisin. Nous pesons le même poids, nous avons les mêmes goûts, nous sommes des amis. Trois types de relations. Et donc trois fondements différents. Et pourtant, les mêmes sujets. Et donc, il faut nécessairement que le fondement ne soit pas seulement vers le sujet, mais qu'il soit aussi vers l'autre. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Et c'est pas commode puisque ça échappe. C'est un éclatement de l'être. Alors, c'est là où je comprends très bien ce qu'on dit, que la relation ne peut s'atteindre parfaitement que grâce à la philosophie de l'être en acte et d'être en puissance. En tant que c'est un éclatement de l'être, en tant qu'il y a un primat d'exercice, nous verrons à propos de l'acte. Pour saisir ce qu'est l'acte, l'exercice est très important, mais l'exercice n'est pas l'acte. Oui. Si on confond l'exercice et l'acte, je comprends alors la question posée. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Mais il ne faut pas identifier l'exercice et l'acte. Le mouvement, c'est une manière d'être en acte. L'exercice, c'est une modalité de l'acte. Mais ce n'est pas l'acte. De sorte que l'exercice implique une détermination. Tout exercice implique une détermination. Et cette détermination, elle a sa raison dans le fondement. Elle s'explique grâce au fondement. Là, vous voyez que le fondement joue ce rôle très particulier de fondamentalement spécifier la relation, c'est le rôle du fondement, mais il n'est parfaitement relatif que dans l'exercice des deux termes corrélatifs. De sorte que la détermination, elle est au niveau de l'exercice des deux termes corrélatifs, et elle est en fondement. Elle est des deux. Donc, qu'est-ce qui spécifie la relation? C'est les deux. L'exercice des deux termes et puis le fondement. Alors, prenons l'exemple de l'amitié. D'une façon classique, on distingue trois espèces d'amitié. Aristote qui dit ça, en s'enracinant dans toute une perspective pythagoricienne, et quelque chose qui est au fond très intéressant. Trois types d'amitié. L'amitié qu'il appelle vertueuse, honnête, disons l'amitié parfaite. L'amitié parfaite, l'amitié de jouissance, et l'amitié utilitaire. Trois espèces d'amitié. Comment vais-je distinguer ces trois espèces d'amitié? C'est toujours l'amitié. Comment vais-je distinguer ces trois espèces d'amitié? Je distingue ces trois espèces d'amitié par leur fondement. Et leur exercice par le fait même aussi. Mais c'est leur fondement. Qu'est-ce qui fait l'amitié parfaite? C'est quand, entre les deux amis, la koinonia, la communication, le fondement. Ce qui permet aux deux amis de s'exercer comme des amis. La mise en commun, c'est de fait ce qu'il y a de meilleur dans l'ami par rapport à son autre ami. C'est la mise en commun de ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire la mise en commun de ce qu'il y a de plus spirituel. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur en nous? Le point de vue de l'intelligence et point de vue de l'amour spirituel. C'est cette mise en commun, donc, de ce qu'il y a de meilleur dans l'ami par rapport à son ami. Cette mise en commun, qui est bien de fondement, je peux spécifier cette mise en commun. Je peux la préciser. Cette mise en commun va permettre un exercice particulier. Deux amis qui ont comme mise en commun le point de vue plus spirituel, ce qu'il y a de meilleur chez l'un qui est communiqué à l'autre, fait que l'exercice de leur amitié a une tonalité particulière. Elle n'est pas la même. Parce que le fondement, qui est ce qui permet à ces deux amis d'être amis, a justement ce caractère particulier, on recherche ensemble la vérité. Deux amis qui sont intelligents, qui sont philosophes, si vous voulez, recherchent ensemble la vérité. C'est une mise en commun merveilleuse de rechercher ensemble la vérité. Vous savez, ça lie extraordinairement une communauté de rechercher ensemble la vérité. C'est une mise en commun, et une mise en commun extraordinaire, très très profonde, puisque l'intelligence, c'est justement ce qui est source de ce qu'il y a de plus noble en nous. Notre noblesse, c'est l'intelligence. Quand saint Thomas compare l'intelligence et la volonté, il dit que l'intelligence a une noblesse unique. Pouvoir mettre en commun une recherche de l'intelligence, une recherche philosophique, mais ça fait des liens. Ça fait vraiment des amis qui recherchent la vérité. Pour saint Thomas, un ami, c'est, point de vue philosophique, c'est celui qui, avec lui, recherche la vérité. Tu es mon ami parce que tu recherches la vérité avec moi. Alors, c'est une amitié, vous allez dire, un peu froide, hein, un peu neigeuse, n'est-ce pas? Mais, iceberg, si vous voulez, mais c'est quand même une amitié d'une très grande noblesse, d'une très grande tenue. Cette recherche ensemble de la vérité. Et cette mise en commun de tout ce que nous pouvons saisir dans l'ordre de la recherche de la vérité, la mise en commun plénière de cela, alors qu'il forme une communauté de chercheurs de la vérité, de sages, amis de sagesse, de philosophes. L'amitié humaine va impliquer aussi une mise en commun au niveau de ma capacité d'aimer. Oui, c'est pour ça que même à l'intérieur de cette amitié parfaite, il y a diverses modalités. Deux amis qui sont philosophes, la tonalité de leur amitié est différente que lorsqu'il s'agit tout simplement de deux amis qui sont des artistes. Parce qu'aussi, ça peut être des artistes, l'intelligence, elle se développe du côté philosophique, elle se développe du côté artistique. Deux amis, matheux. Ah ben, l'iceberg est plus grand. Parce que l'intelligence du philosophe, l'intelligence de l'artiste sont liées à la sensibilité et sont liées à l'amour, tandis que l'intelligence du matheux est séparée. Ça explique du reste les quantités de choses. Les mathématiques font que l'intelligence est séparée. Séparée non pas comme séparée au sens de l'intelligence séparée de la métaphysique, mais l'intelligence abstraite. Séparé dans un sens abstrait. Donc, c'est particulier. C'est pas une intelligence liée à la sensibilité, c'est pas une intelligence liée à, si vous voulez, pour l'artiste, et même pour le philosophe, puisqu'il y a toujours le jugement d'existence. Donc, il y a des modalités différentes. Dans la capacité d'aimer, il y a beaucoup de demeures dans l'amour spirituel. Et donc, là aussi, il y aura des diversités. Bon, si vous prenez maintenant l'amitié de jouissance, l'élément sensible prendra une importance primordiale. Parce que c'est la sensibilité et l'harmonie dans les sensibilités qu'on recherche. En premier lieu, et la jouissance qu'il y a dans le fait même qu'on se retrouve ensemble pour être ensemble dans cette sensibilité. Cette sensibilité qui est liée évidemment aux passions, qui est liée à l'imagination, qui pourra faire que, de fait, là encore, la tonalité de l'amitié aura un autre aspect. Et vous voyez, je dis bien, la mise en commun et la tonalité de l'amitié. Pour moi, je crois que ça correspond à la mise en commun, le fondement, et la tonalité de l'amitié, l'exercice. Or, la tonalité d'une amitié dépend de la mise en commun. Deux êtres qui s'aiment dans la jouissance, qui peut être, s'ils sont épicuriens, les amis épicuriens, Épicure, c'est celui qui a un sens extraordinaire d'une jouissance esthétique, une jouissance la plus noble qui soit, la plus grande qui soit, ils sont épicuriens. Alors, deux amis épicuriens, ça se reconnaît tout de suite. Deux amis qui recherchent le point de vue de la perfection, c'est autre chose. Et puis, deux amis dans l'ordre de l'utilitaire, alors là, ça se reconnaît encore beaucoup plus. Hein. C'est des voleurs, des brigands, qui sont associés ensemble dans un but utilitaire. Ou pour les examens. Tu es fort sur Leibniz, moi je suis fort sur Kant, eh bien, on essaiera de communiquer. Tu es fort en version, je suis fort en thème, on essaiera de communiquer. N'est-ce pas ? Alors, et ainsi de suite. Alors, la mise en commun de ce qui est utile, de nos capacités d'ordre utilitaire, donne une tonalité tout à fait particulière à des voleurs amis, à des brigands amis. C'est très curieux, des brigands amis. Quand vous dites une bande de brigands non, amis, c'est très spécial. C'est une amitié un peu tyrannique du reste. Hein. Parce que si tu ne fais pas le coup, hein, tu verras. Immédiatement, hein, c'est la masse qui est présente toujours. Si tu ne fais pas le coup, je serai là par derrière. Hein. Je vais voir jusqu'où tu vas aller. On ne dira jamais ça dans une amitié parfaite. C'est très curieux que la liberté entre amis n'existe que lorsque l'amitié est parfaite. Alors là, il y a une amitié, il y a une liberté parfaite et on mesure. Et alors, la liberté, où est-ce qu'elle est ? C'est l'exercice. C'est dans l'exercice, c'est pas dans le fondement, c'est dans l'exercice. Dans l'exercice, vous sentez tout de suite s'il y a le respect plénier de la liberté de l'autre. Alors, dans l'exercice de cette amitié, vous voyez la liberté plénière. Ou au contraire, si vous êtes un peu tyrannique, alors à ce moment-là, c'est où la jouissance, où l'utilité. Et la tyrannie sera encore plus grande du côté utilitaire. Du côté jouissance, ce sera parce que tu es indispensable, que veux-tu, j'ai besoin de toi aujourd'hui, c'est absolument impossible. Alors j'ai besoin de toi, toi tu veux peut-être, mais fais attention à moi, voyez, on réclame. Fais attention, on réclame, parce que c'est l'aspect plus passionnel. Et l'aspect passionnel est nécessairement tourné vers soi. Tandis que dans une amitié absolument libre, c'est tout à fait différent. Très bien, le bien de l'autre est mon bien. Alors il y a cette liberté totale. Tandis que de l'autre côté, la liberté n'est pas totale parce que le fondement n'est pas aussi spirituel. Oui, je crois que c'est à ça nous fait très bien comprendre. Ça nous fait très bien comprendre le lien qui existe dans l'exercice de la relation. Parce que là, il est assez fort. L'exercice de la relation est le fondement de la relation. Et que la tonalité de l'exercice dépend du fondement. Donc, si la tonalité dépend du fondement, on peut dire que la spécification ultime de la relation, c'est dans l'exercice. Mais que cet exercice se fonde. Et le fondement est comme la mesure. C'est pour ça qu'on pourrait appeler mode et mesure. On dira que le fondement mesure l'exercice. Et c'est vrai. Et que ici, il y a une certaine modalité. Ce que je dis tonalité, vous voyez ? Un mode, c'est très difficile à exprimer. Psychologiquement, un mode, c'est une tonalité. C'est quelque chose de particulier. Là, on trouvera des modes particuliers d'exercice en fonction du fondement qui est en quelque sorte une mesure. Et c'est vraiment le fondement qui détermine, qui spécifie radicalement. Mais cette spécification se fera d'une façon ultime à travers l'exercice. Vous voyez, il faut être attentif à ces deux aspects. Et je crois que ça fait bien comprendre qu'est-ce que c'est que la relation. Comme c'est difficile de saisir ce qu'est la relation. Prenez l'exemple de la relation de similitude. La relation de similitude, de deux personnes qui ont les mêmes goûts, qui regardent les choses toujours de la même façon. Tout de suite, immédiatement. Ils découvrent tout de suite, quand ils vont voir une petite église romane, le bon coin où il faut la regarder. Puis il y a le béotien, qui ne sait pas. Mais deux amis qui ont le même goût, tout de suite. Viens voir, c'est là. Alors, c'est vrai. Ils ont le même goût. Ils ont même le même regard sur les personnes, sur les réalités, sur les événements politiques. Ils ont le même regard, le même goût, ce qui est encore plus rare, hein, sur les événements. Mais comme ça joue beaucoup, ça peut être quelque chose de particulier. Alors, la similitude, là, a comme fondement d'avoir une capacité de sentir, de juger, d'estimer. Le fondement, c'est donc notre faculté d'apprécier les choses, et le jugement esthétique ou le jugement affectif. Il y aura les deux. De temps en temps, ce sera plus affectif, d'autres moments, ce sera plus esthétique. Au fond, c'est le fondement, c'est les deux. C'est notre faculté de connaissance liée à notre sensibilité, liée à notre affectivité. C'est ça le fondement. Et ce fondement va pouvoir s'exercer ensemble. Et quand ils s'exercent ensemble, il y a quelque chose de nouveau. On est heureux et il y a une espèce de confirmation mutuelle parce qu'on ressent les choses de la même manière. C'est très curieux. Il y a une similitude. Ce n'est pas l'amitié, hein. C'est une similitude du jugement d'appréciation. Cette similitude du jugement d'appréciation fait que il y a une relation d'unité dans ce jugement d'appréciation. cette unité dans le jugement et l'appréciation, qui fait la similitude, ne spécifie pas. Au sens premier, c'est vraiment notre manière de juger. C'est notre manière d'apprécier qui est la même des deux côtés. Mais il y a comme une confirmation. Il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Et il y a quelque chose qui stabilise, oui, l'unité, qui vient à l'intérieur. Donc là encore, on retrouve que l'exercice de similitude n'est pas le même. Je suis très semblable avec un tel pour son appréciation politique. Pour son appréciation esthétique, alors pas du tout. Pour son appréciation philosophique, oui, on est d'accord. Mais esthétique, non, pas du tout. Il a des goûts totalement différents de moi. Surtout au point de vue musique. Et au point de vue liturgie, n'en parlons pas. Des jugements totalement différents. Mais pour le reste, il a des choses... Vous voyez, on voit très bien. Similitude et dissimilitude. Et quand vous essayez d'analyser, parce que ça, on peut tous analyser, on a toujours cette expérience-là. Une vie commune a ceci de merveilleux, c'est qu'elle nous donne des tas d'exemples de similitudes et dissimilitudes. Il faut un minimum de similitudes, parce que s'il y a un maximum de dissimilitudes, alors on dit, bon, je ne fais pas partie de cette communauté. Il y a un minimum de similitudes pour qu'on fasse partie d'une communauté. Alors évidemment, avec une hiérarchie, hein. On pourrait faire un test, vous savez. Alors, on verrait si vous êtes parti, on pourrait faire un test. Mais comme je n'y crois pas, il vaut mieux pas le faire. Mais on pourrait le faire, hein. On pourrait faire un test. Alors, avez-vous les similitudes dans un jugement pratique à l'intérieur d'une communauté? Une communauté n'existe que s'il y a suffisamment de similitudes. Alors on est intégré. S'il y a trop de diversité, c'est difficile. Si la diaphora, la différence est trop grande, c'est difficile. Il n'y a pas assez de mise en commun. Alors, vous voyez, c'est la question de similitude, dissimilitude. Pour qu'il puisse y avoir une koinonia, pour qu'il puisse y avoir une harmonie, pour qu'il puisse y avoir la concordia, il faut suffisamment de similitudes. S'il y a trop de dissimilitudes, il ne pourra pas y avoir cette concordia. Alors là encore, vous voyez bien que cet exercice de similitudes et dissimilitudes repose sur le fondement. Et que c'est le fondement qui, en premier lieu, radicalement spécifie, mais que ce n'est pas suffisant. La spécification se fait de façon ultime dans la similitude et la dissimilitude.
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.